France Musique. Carrefour des Amériques, Marcel Quillé-Véret.
Le Mexique, la musique et le monde, c'est le cinquième chapitre, le théâtre et le revue musicale des années 20. Bienvenue à toutes et à tous. Alors que la révolution mexicaine s'achève et que la culture retrouve toute sa vigueur, le Mexique se rend compte en 1920 à quel point son théâtre a évolué au cours des années. Un théâtre qui a toujours su contourner la censure et qui est devenu de plus en plus frondeur, surtout le théâtre populaire, qui a obtenu enfin droit de cité. La fronde théâtrale avait déjà débuté en 1907, et cela grâce à la zarzuela espagnole, qui remporte alors un succès considérable dans les théâtres mexicains. Surtout les plus courtes qui appartiennent au género chico, la petite zarzuela, très proche du public populaire. Et quand on dit zarzuela au Mexique, on évoque aussitôt une soprano de légende, María Conesa. Elle était arrivée de Madrid en 1901 avec une troupe d'enfants acteurs et elle est restée à Mexico et y a chanté toute sa vie. Peu avant sa mort en 1978, elle était encore en scène au Grand Théâtre Esperanza Iris. Elle a créé nombre d'opérettes viennoises entre la Havane et Mexico. Durant la Révolution, elle disait que les balles ne l'arrêteraient pas. Et effectivement, les combattants, armes à la main, venaient même l'applaudir à travers le pays. En 1907, alors qu'elle n'a que 25 ans, elle crée à la Havane et à Mexico une nouvelle zarzuela fraîchement débarquée de Madrid, La Gatita Blanca, le petit chaton blanc, qui sera le nom que lui attribueront affectueusement les Mexicains. Elle n'avait pas la plus belle voix du monde, mais quelle beauté, quelle sensualité et quel abattage! Un mélange de Miss Tinguette et d'Yvonne Printemps. Elle chante ici son premier voyage en automobile, seule avec le chauffeur, précise-t-elle, avec ce qu'il faut de manettes à manipuler. Ni on n'a pas la bramas, vous voyez ce que je veux dire. Une chanson truffée de sous-entendus. Il faut savoir que El Albur, le calembour, est au Mexique, un véritable sport national.
Ayer en automóvil, un paseo me di, solita con el chofer, que es un joven muy chic, como el auto corría con tal velocidad, iba muy asustada y me puse a gritar. En el motor la mano, yo puse sin pensar, quedó todo parado, ni una palabra más. Al bailar la lichete, me van a excomulgar, pues dicen que me muevo de un modo singular. Ayer vino un sujeto y me empezó a decir, con esa el movimiento tienes que reprimir. Casados y solteros, al verte así bailar, cuando llegan a casa, ni una palabra más. Un joven que aquí viene a verme trabajar, me ha dicho hace unos días, me quiere retratar. Cansada ya de oírle, así le dije ayer, dígame mi retrato, porque lo quiere usted. Dijo con su retrato, disfruto yo la mar, pues solo con mirarlo, ni una palabra más.
La Gatita Blanca, la petite chatte blanche, c'est une chanteuse de cabaret amoureuse. Et elle apprend que son amant va se marier avec une riche héritière de province. Elle échafaude alors un plan pour faire échouer le mariage. Première étape, faire venir de la campagne à Madrid le futur beau-père et lui organiser une belle fête. Quoi de mieux pour l'émoustiller qu'un tango à la réputation sulfureuse? La Gatita lui propose un chocolat chaud. Et elle mime de manière très suggestive le tour de main qu'il faut avoir pour faire frémir le chocolat juste à point. En l'écoutant, le vieux Rusto en perd la tête. Regardez, il faut bien faire tourner le moulin entre les doigts, puis vous le faites entrer et sortir afin que le chocolat s'épaississe. Puis dans ma tasse, toute chaude, trempez donc votre biscotch ou votre biscuit. Vous verrez comme c'est délicieux. La censure au Mexique n'y voit que du feu, et ce chaton blanc va être à l'origine de ce qu'on appelle là-bas le théâtre de revistas, des petites pièces courtes où la satire et l'érotisme à demi-mot font la joie du public.
Ay, que hacer con cuidadito, que la lumbre no haga llama.
Hay que hacer con cuidadito, que la lumbre no haga llama.
Porque así el chocolatito al hervir no se derrama.
Porque así el chocolatito al hervir no se derrama.
Para ver si está deshecho, entra y sale el molinillo.
Para ver si está deshecho, entra y sale el molinillo.
Y al mirar que ya está hecho, se le sirve en el pocillo.
¡Qué sencillo!
¡Muy sencillo!
Entra y sale el molinillo, y al mirar que ya está espeso, me lo sirvo en el pocillo. Y al mirar que ya está espeso, me lo sirvo en el pocillo.
Moja un bizcochito en mi pocillito que está calentito y te va a gustar.
¡Ay!
Tú no hagas el tonto que se enfría pronto y como se enfría no te gustará.
¡Trae pa' acá!
¡Trae pa' acá!
¡Trae pa' acá!
¡Trae pa' acá! En tu pocillito que dulce sabrá.
¡Trae pa' acá!
¡Trae pa' acá!
¡Trae pa' acá!
¡Trae pa' acá!
Este bizcochito, ¡ay, qué rico está!
Este chocolate nunca sienta mal.
Qué rico chocolatito, qué dulce y sabroso es.
Si no basta un bizcochito, pueden mojar dos o tres.
Eso es,
lo menos dos.
Eso es,
lo menos tres. Moje usted, moje usted.
Qué rico está.
Moje usted, moje usted. Moje usted, moje usted.
Lo menos tres.
Lo menos dos.
Lo menos tres.
Lo menos tres.
La chanson du chocolat de la Gatita Blanca de Jerónimo Jiménez et Amadeo Vives, Luisa de Córdoba et Santiago Ramallé avec l'Orchestre de Chambre de Madrid, dirigé par Enrique Navarro. La zarzuela espagnole inspirait aussitôt des zarzuelas mexicaines aux personnages populaires savoureux. Avant la Révolution, celle qui a remporté le plus de succès, c'était une sorte de chinoiserie mexicaine écrite par un écrivain célèbre, José Elizondo, sur une musique du très sérieux Luis Jorda. Chin Chun Chan, sous-titré « Un conflit chinois en un acte et trois scènes ». Cette zarzuela n'a guère quitté l'affiche et a été reprise régulièrement jusqu'à tout récemment. Le personnage principal, Columbo, doit échapper à la fureur de sa femme qui a compris qu'il la trompe. Il apprend que l'hôtel le plus luxueux de la ville attend l'arrivée d'un grand mandarin chinois. Il arrive ainsi à la réception, attifé en asiatique de carte postale, et on le prend effectivement pour le mandarin en question. Et comme prévu, on lui fait faire un tour de la ville. Lors d'une fête, on lui fait connaître le téléphone sans fil, récemment installé à Mexico, dont il profite pour appeler sa jeune maîtresse. Mais sa femme arrive à point nommé et tout rentre dans l'ordre, quand elle entraîne de force son mari sur un rythme de cakewalk et de polka.
«
l'ensemble Alaouda dans une polka de Juventino Rosas. Quant à Luis Jordán, ce sont surtout ses chotis, ses valses, ses polkas et ses parodies d'opéra qui ont eu la faveur du public. Sa zarzuela mexicaine Chin Chun Chan va donner naissance peu à peu au théâtre de Revistas, ces scénettes musicales populaires qui naîtront durant la Révolution. De Luis Jordán, il reste aujourd'hui au répertoire des pianistes, des danses et des nocturnes qui évoquent avec nostalgie un passé révolu. Des danses nocturnes de Luis Jordán par Cyprien Katsaris. Les revistas, les revues musicales mexicaines, n'ont rien à voir avec les revues françaises à grand spectacle, avec une avalanche de paillettes et de plumes. Aujourd'hui, le grand acteur mexicain Arturo Beristain, digne représentant d'une véritable dynastie d'acteurs, a décidé de monter un spectacle en hommage à ce genre trop tôt disparu dont son ancêtre, Leopoldo, a été à l'origine. Arturo Beristain nous raconte. Il y a deux révolutions au Mexique, l'une civile politique et l'autre qui est une revendication populaire, surtout paysanne. C'est celle de Zapata et de Villa, tous les deux assassinés par Carranza. Mais ceux qui gagnent après la nouvelle constitution, ce sont les politiques. Et Leopoldo était au milieu de tout ça dans son théâtre de Revistas, qui avait été influencé d'abord par le musical anglais, puis par le café-concert tel qu'il existait durant la Révolution française. Il y avait une partie musicale, puis un sketch qui est devenu par la suite un sketch comique. Le théâtre mexicain de Revistas est un amalgame de beaucoup de choses, avec des influences évidentes, quoique inconscientes, de la comedia dell'arte, étant donné qu'on improvise beaucoup tout en restant dans le sujet. Le peuple qui est illettré va au théâtre pour se divertir d'un côté, mais aussi pour se mettre au courant de la situation politique. C'est ainsi que le personnage comique créé par Leopoldo a été à l'origine ces années-là de la création du théâtre de Revista. Un théâtre qui connaît un déclin dans les années 1940 et qui disparaît dans les années 1950. Les écrivains aujourd'hui font des recherches sur ce genre dans lequel apparaissent les chansons interprétées par María Conesa, Esperanza Iris, qui étaient les sopranos vedettes de ces revistas de ce género chico. La soprano Margarita Cueto et Carlos Mejía le ténor dans le duo de la princesse chinoise, extrait d'une revista de Gabriel Ruiz et José Elizondo. Un duo qui célèbre en réalité la beauté du costume national mexicain, le vêtement appelé de la China Poblana, la chinoise de la ville de Puebla, un costume que portaient les femmes du peuple et qui a donné lieu à des légendes de toutes sortes. Il remonte sans nul doute au XIXe siècle, quand Puebla commerçait avec Manille et importait ses superbes robes et châles colorés qui avaient séduit les Mexicaines et les Espagnols les plus modestes. De ce théâtre de revistas est né aussi le théâtre plus populaire encore, le théâtre de tandas. Les tandas étaient des séances qui ne duraient guère plus de 40 minutes. On montait ces tandas sur la scène des théâtres, mais aussi sur des tréteaux dressés sous chapiteaux que l'on montait et démontait dans les quartiers les plus populaires. On écoute Arturo Beristain. Durant la Révolution en 1915, dans les grands théâtres, le peuple n'avait pas de quoi s'acheter un billet. Alors on a joué d'abord dans des théâtres, puis ensuite sous des chapiteaux où on installait une scène et des bancs, un peu comme les tréteaux du théâtre de Corrales du siècle d'or espagnol dressés dans les patios. Dans ces tentes, comme des tentes de foire, on payait par tanda, par séance. Tu achetais un billet et tu voyais une séance dans laquelle il y avait une chanteuse, un comique avec l'albour, le calembour français à double sens, sexuel en général, et un numéro de magie. Les gens payaient 10 sous pour une tanda, ou un peu plus pour deux. Rien à voir donc avec les théâtres où on représentait des opéras, des zarzuelas ou des opérettes, comme au Théâtre National. Et il y avait beaucoup de théâtres à Mexico, plus de 60 en 1900.
Thank you.
L'ensemble Alaouda dans une danse de Samuel Maynes Prince, né en 1886, qui a fait partie du premier orchestre symphonique de Mexico et qui jouait souvent au Café Colonne de la ville, suivi d'un guateque, une fête populaire de Manuel Ponce par Gustavo Rivera Weber. En 1920, c'est l'effervescence qui règne à travers le pays, suite à l'arrivée de José Vasconcelos au ministère de l'Éducation nationale. Il donne un élan impressionnant au monde éducatif, et en particulier dans les endroits les plus reculés du pays, et la musique et la danse sont partout à l'honneur. Tous les dimanches, par exemple, on organise dans la capitale de grandes fêtes populaires qui réunissent jusqu'à 20 000 spectateurs avec, comme le souligne la presse, des chœurs qui rassemblent 2 000 ouvriers et des groupes de danse folklorique de toutes les régions du pays. En 1921, le gouvernement organise une nuit mexicaine dans le parc de Chapultepec. La soirée commence devant des milliers de spectateurs par, je cite, « un ballet mexicain » où des musiciens populaires interprètent des musiques indiennes et plutôt primitives. Puis des groupes de danse folklorique se mêlent à des chœurs de travailleurs des quartiers populaires et on danse le jarabe de Guadalajara, devenu un véritable hymne patriotique.
Carrefour des Amériques, Marcel Quillé-Véré.
Les danseurs, chanteurs et musiciens du ballet folklorique national d'Amelia Hernandez qui interprétait la chanson populaire Las Mañanitas, suivie d'un jarabe, cette fois de la région du Michoacán. Les grands peintres mexicains vont bientôt se joindre au vaste mouvement populaire à travers le pays. Carmen Gaitán, directrice du Musée national, nous en parle.
Nous avons eu un grand ministre de culture qui s'appelait José Vasconcelos, qui fut celui qui a amené les peintres à faire, disons, de caravane d'alphabétisation dans toute la République. C'était un monde plutôt rural, il ne savait pas ni lire ni écrire. Donc pour Vasconcelos, il a fait des missions culturelles, et c'était des croisades culturelles qui allaient dans toute la République, dans les petits patelins, dans toutes les villes, juste pour essayer d'incorporer tous eux qui n'avaient pas la moindre idée de ce que c'était que la culture. Donc avec lui, on a, disons, constitué c'est ce que nous appelons le monde de la période dorée du Mexique, où apparaissent des peintres importants comme José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, et Diego Rivera, et parmi eux, des femmes importantes aussi comme María Izquierdo, qui était la femme de Rufino Tamayo, qui après sera grand peintre mexicain. La tradition dans le domaine de la peinture est très forte à Mexico.
Le ministre Vasconcelos était un grand mélomane. Il connaissait bien les compositeurs Manuel Ponce et Carlos Chavez. Et c'est un de leurs élèves, Antonio Gómez Anda, qui l'intrigue et l'enthousiasme. Il fait tout pour le faire aller étudier à Paris. C'est en France que Gómez Anda ébauche sa fantaisie mexicaine pour piano et orchestre. Deuxième mouvement de la fantaisie mexicaine de Antonio Gómez Anda par le pianiste Alan Marx et l'orchestre symphonique de Berlin dirigé par Jorge Velasco. À Paris, Antonio, qui a alors 27 ans, étudie avec Édouard Risler, pianiste proche de Fauré et de Reynaldo Hahn, qui s'est fait un nom en Amérique du Sud où il se produit régulièrement et aussi au Mexique, un pays qu'il a particulièrement touché. À Paris, Risler est impressionné par les multiples talents de Gómez Sanda, au point de lui organiser aussitôt un récital à la Salle Erard et de lui conseiller d'aller étudier en Allemagne avec Ferruccio Busoni. C'est donc à Berlin, en 1922, que Gómez Sanda termine sa fantaisie mexicaine, très influencée à la fois par les œuvres de Manuel Ponce et par la fantaisie que son professeur Busoni avait écrite sur des thèmes indiens d'Amérique du Nord. La fantaisie mexicaine de Gómez Sanda sera créée au Mexique à son retour cette même année. En Europe, Antonio avait eu une nostalgie profonde de la région de Jalisco, au centre du pays, où sa famille était très attachée aux traditions et aux musiques populaires. Alan Marx et Jorge Velasco à la tête de l'Orchestre symphonique de Berlin dans le dernier mouvement de la fantaisie mexicaine d'Antonio Gómez Anda. Entre-temps au Mexique, José Vasconcelos est toujours aussi décidé à soutenir les communautés indiennes et à aider son pays à retrouver son identité culturelle. Ainsi, il réunit à nouveau les peintres et les invite en novembre 1921 à un voyage dans la belle province du Yucatan que baigne la mer Caraïbe, où il leur fait visiter les sites archéologiques mayas. Diego Rivera, de retour d'Europe, s'est joint à eux. Il leur amène des croquis de paysages, de villages, de rivières souterraines, d'hommes et de femmes qui figureront par la suite dans ses fresques et ses tableaux. Il parle alors à Vasconcelos de son séjour européen, au cours duquel il a été fasciné en Italie par les fresques du Giotto. Pour réaliser son idée d'un art au service du peuple qui lui raconterait son histoire, il persuade le ministre de lui offrir un mur pour y peindre une fresque mexicaine. Ce voyage a profondément touché les artistes et ils n'oublieront jamais ces moments de méditation dans les sites de Chichen Itza ou d'Uxmal, quand dans le silence du crépuscule, le soleil tropical se couche et que la lune vient éclairer les temples et les pyramides mayas. L'adagio du premier quatuor de Carlos Chavez par le quatuor latino-américain. Une œuvre qui a profondément touché José Vasconcelos quand il l'a entendu en 1921. Il décide aussitôt d'associer Carlos Chavez au mouvement culturel qu'il a initié avec les peintres. À ce propos, Diego Rivera est déjà à l'ouvrage sur l'un des grands murs de l'ancien collège jésuite de San Ildefonso, là où est installée l'école nationale préparatoire, c'est-à-dire le grand lycée de Mexico qui prépare les élèves aux études universitaires. Vasconcelos est ravi. Il retrouve là les traditions de la couleur, des formes et de la narration des muralistes indiens. Un nouveau mode d'expression artistique est né, qui sera célèbre dans le monde entier. Mais Vasconcelos cherche encore un moyen d'expression qui rallierait un public plus vaste encore. Les spectacles qui mettent en valeur le folklore national et les danses populaires à travers le pays ont alors attiré les foules. Il songe à l'idée d'un grand ballet national qui magnifierait l'expression populaire et qui pourrait aller au-delà, jusqu'à s'inspirer des ballets russes. L'ouverture de la suite de la Huasteca, une région qui longe le golfe du Mexique. Une œuvre récente de Jesús Echevarría qui jouait ici de la jarama, une petite guitare mexicaine avec le quatuor russo-américain. Au Mexique, José Vasconcelos et des amis écrivains tentent de trouver la formule d'un art mexicain authentique et à la fois populaire et universel. Tous pensent que c'est la danse qui réunit d'emblée ces critères. Et il commande un ballet aztèque à Carlos Chavez, sur un argument du poète Gorostiza. Chavez se met aussitôt au travail et contacte un ami peintre et décorateur de théâtre qui vit alors en Italie. Ce dernier vient de rencontrer à Florence l'écrivain français Max Jacob. Enthousiaste, Max en parle à Cocteau. Pourquoi ne pas créer ce ballet à Paris en collaboration avec Diaghilev? Le titre, Fuego Nuevo, le feu nouveau. L'une des fêtes aztèques les plus importantes d'Anahuac, la vallée de Mexico. La dernière de ces cérémonies s'est déroulée en 1507 pour implorer ce feu qui éviterait les cataclysmes annoncés cette année-là. C'était peu avant la conquista d'Hernán Cortés. Hélas, le projet de ballet tombe à l'eau et l'œuvre ne serait créée qu'en 1928 en concert par l'Orchestre symphonique du Mexique. Il est ici interprété par l'ensemble Inner Pulse formé d'étudiants et de professeurs de l'Université nationale de Mexico.
Thank you.
C'est sur ce ballet aztèque de Carlos Chavez par l'ensemble Inner Pulse dirigé par Juan Gabriel Hernández que nous nous quittons aujourd'hui. Rendez-vous donc dans le prochain épisode de Carrefour des Amériques, une émission réalisée par Béatrice Trichet à la prise de son Pierre Monteil. Une émission disponible bien sûr en podcast.
À réécouter sur francemusique.fr.